Restons courtois. Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Valentin.
Bonsoir à nouveau.
Étienne Darjac, éditorialiste. Rebonsoir Étienne.
Bonsoir Marc.
Et nous accueillons le géopolitologue enseignant en relations internationales, Max-Erwan Gassino. Bonsoir Max-Erwan, comment allez-vous ?
Bonsoir, très bien, merci de votre invitation.
On précise aussi que vous êtes l'auteur de, notamment de l'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation aux éditions du CERF. Vos travaux de géopolitologue vous ont beaucoup amené à vous intéresser à la Hongrie. On va parler évidemment de ce nouveau Premier ministre, mais tout d'abord on va tirer la conclusion qui s'impose, c'est la fin de l'ère Orban en Hongrie, une ère quand même assez longue pour ce pays, cet ex-membre du bloc de l'Est, puisque Viktor Orban a régné, si on peut le dire, pendant 15 ans sur la Hongrie. C'est un choc là-bas.
Alors, c'est en effet la fin d'une époque. Viktor Orban a repris le pouvoir en 2010, je dis repris parce qu'il avait déjà été Premier ministre de 98 à 2002. Avec une ligne de droite assez classique, libérale, conservatrice. Bon. En 2010, tout change, parce que le contexte change. Il faut se rappeler que nous sommes dans un contexte de crise économique et financière qui touche beaucoup les pays d'Europe centrale et orientale, beaucoup plus qu'à l'Ouest. Et Viktor Orban gagne les élections largement, le parti d'Orban, le Fidesz, gagne les élections en 2010 avec un discours consistant à dire l'effondrement économique du pays est la conséquence d'une crise plus profonde, morale et politique. Et c'est le début d'un diagnostic qui va irriguer les années 2010, parce que pour répondre à cette crise morale et politique, Orban va mettre en place une véritable révolution conservatrice, une vaste rénovation constitutionnelle, mettant l'accent sur les racines chrétiennes, etc. Et puis décliner tout ce discours, décliner cette refonte du régime démocratique hongrois en politique publique, afin notamment de relancer la natalité. Il a été surtout réputé pour ses politiques natalistes, et puis aussi...
Qui ont eu un succès assez relatif.
Alors, qui ont eu un succès relatif. En 2010, on est à 1,1 enfant par femme en Hongrie. Dans les années 2010, 5% du PIB est consacré aux politiques familiales en Hongrie. On arrive jusqu'à 1,6, donc des résultats.
Il y a quand même du mieux, ouais.
Mais ensuite, tassement, et aujourd'hui, on est plutôt à 1,5. Bon. Et puis, bon, une véritable résistance assumée, intellectualisée, à l'égard de Bruxelles concernant la thématique migratoire qui va prendre un ton singulier en Europe centrale à partir de 2015. Crise des réfugiés, et ce n'est pas simplement la Hongrie, c'est aussi la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, avec des gouvernements d'ailleurs différents d'un point de vue
c'est
politique.
C'est presque la frontière du rideau de fer en fait.
Voilà, qui vont de nouveau réhabiliter une forme de discours très répandu en Europe centrale, lié à l'histoire de l'Europe centrale, consistant à dire une fois de plus... Nous faisons face à une sorte de tentation impériale des grandes puissances de l'Ouest qui veulent nous imposer leur récit, qui veulent nous imposer leur identité multiculturaliste, etc. Donc là, vous avez une vraie résistance. Et Viktor Orban est celui qui, à l'intérieur de cette résistance transcourant et transétatique en Europe centrale, va véritablement conceptualiser les choses à travers cette idée de démocratie illibérale, terme qu'il a vraiment assumé et qu'il a théorisé dans un grand discours de juillet 2014. Ça date de là, l'illibéralisme hongrois.
Et Viktor Orban, qui a été dépeint pendant des années comme l'espèce de grand méchant loup de l'Europe, celui autour duquel c'est un petit peu sédimenté cette espèce de résistance. On parlait de l'Europe de Visegrad, on parle encore d'ailleurs un petit peu de l'Europe de Visegrad. Il y a toutefois eu un tournant et qui peut-être a accéléré, en tout cas qui au niveau européen a accéléré sa disgrâce aux yeux des autres pays, et qui peut-être moins au niveau intérieur, ça a été lorsque finalement la Russie s'est révélée comme une ennemie de l'Europe. Il y a eu parce que c'est ça au fond qu'on reproche à Viktor Orban, c'est d'être trop proche du régime de la Russie de Vladimir Poutine.
Alors, il y a cet aspect russe sur lequel je vais revenir, qui n'est pas premier. La première raison de son échec, c'est l'économie. Les années 2010 sont des années de bonne santé économique pour l'Hongrie qui revenait de très loin, comme je l'ai expliqué en début d'émission. Covid, crise énergétique, et donc là vous avez évidemment un tassement. La Hongrie était l'un des pays qui a connu le taux d'inflation le plus élevé d'Europe. Gel des fonds européens, près de 20 milliards d'euros qui n'ont pas été débloqués pour la Hongrie. Ça, c'est une immense perte évidemment, et d'ailleurs le nouveau Premier ministre va chercher à arrondir les angles. Il ne va pas remettre tout en question, mais il va arrondir les angles pour bénéficier de cette manne financière. Le cas russe est venu accentuer ce discours. Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? La Hongrie est largement dépendante du gaz et du pétrole russe. 80% du gaz hongrois est russe, un peu plus de 60% du pétrole. C'est une nation industrielle, 27% du PIB, c'est de l'industrie. L'industrie, elle a des besoins énergétiques forts. Donc, il y avait une forme de pragmatisme géostratégique à vouloir conserver, cultiver, entretenir les liens avec Moscou. Le problème, c'est que on est dans une période de tension avec l'Europe, et Viktor Orban, qui était le champion de l'indépendance nationale, a vu un petit peu son discours s'affaiblir lorsque des révélations d'appels téléphoniques ont été faites, montrant l'exécutif hongrois de mèche avec la Russie, qui rappelait quand même quelques mauvais souvenirs, et qui est venu donc contredire le discours d'Orban. C'était le champion de l'indépendance nationale, ça devenait un petit peu le relais du monde extérieur, d'un monde extérieur un peu hostile, Trump, Poutine, permettant à son rival Peter Maguire d'apparaître par contraste comme étant celui qui, lui, allait respecter, restaurer la dignité hongroise, la fierté hongroise que Orban, en fin de compte, au bout du compte, avait un petit peu, du coup, si vous voulez, attaqué ou en tout cas affaibli. Voilà.
Avec de surcroît ce sujet, ça a été d'autant plus prégnant avec la campagne de Peter Maguire, parce que c'est un sujet dont on n'avait pas forcément conscience vu l'Occident, et c'est Maguire qui l'a un peu mis sur la table, c'est le sujet de la corruption.
Voilà, donc ça, il faut en dire un mot, et puis il faut expliquer les raisons, parce qu'évidemment, il y a des véritables raisons qui expliquent ce discours et qui a justifié que Bruxelles s'en occupe et sanctionne la Hongrie. Je parlais du retour d'Orban aux affaires en 2010. Son idée est de magyariser le capitalisme national. Il dit notre économie, en fait, elle est, depuis le tournant des années 90, fin du communisme, elle est possédée par des capitaux étrangers. Donc je veux magyariser l'économie nationale. Il met en place une politique très peu orthodoxe, très peu libérale, faite de nationalisation notamment. Et son idée, c'est de créer une sorte de classe d'oligarques nationaux. Le problème, c'est que ça va créer, en effet, du coup, un effet système. Vous allez avoir une sorte de collusion politique et économique entre un petit milieu.
C'est une sorte de féodalisme, en fait.
Voilà, qui vont un petit peu se passer les marchés publics. Et donc là, il y aura un défaut de transparence totale qui fait que l'Union européenne va mettre en place un mécanisme de sanctions, exigeant de la Hongrie des réformes pour que tout ceci soit beaucoup plus transparent. Et donc, des effets de corruption plus des résultats économiques moins bons a fait que la population, au bout d'un moment, s'est dit « ça ne peut plus continuer ». Je pense qu'un peuple est capable de regarder un petit peu à côté concernant la corruption lorsqu'il bénéficie de l'action économique de son gouvernement, mais quand cette action économique n'est plus satisfaisante, l'effet corruption est multiplié par 10.
Il n'est plus assez rentable de fermer les yeux. Et donc, Peter Maguire. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément la personnalité, ce qui est assez amusant, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il est issu de la formation politique de Viktor Orban.
Complètement. Peter Maguire faisait partie de la galaxie Orban, du Fidesz, le grand parti donc conservateur hongrois. Il était marié d'ailleurs avec Judith Varga, qui a été ministre de la Justice.
On en parlera aussi, parce qu'il y a un sujet
qui,
visiblement.
Il y a des affaires, disons, familiales qui ressortent, puisque c'est son ex-femme, comme je disais. Mais bon, donc c'est un conservateur. C'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs traditionnelles, ou en tout cas qui l'affiche très clairement, qui veut continuer la politique d'Orban en matière d'immigration, voire même la rendre un peu plus dure. Il a été, pendant sa campagne, il a accusé Orban d'avoir trop ouvert les valves de l'immigration. Donc rendez-vous compte de ce qu'est la Hongrie aujourd'hui. C'est 50 nuances de droite. Il n'y a pas de parti de gauche au Parlement aujourd'hui en Hongrie. pour poursuivre sur le profil de Peter Maguire, c'est quelqu'un qui a pris la tête d'un nouveau parti fondé en 2020 qui s'appelle TISA. Respect et liberté en français, et il a pris la tête de ce parti en 2024. Et là, ça montre bien quelle a été la stratégie de l'opposition, puisque des gens de gauche l'ont rallié. Au fond, c'était de se dire, il nous faut un Orban, mais présentable, c'est-à-dire quelqu'un qui correspond un peu aux valeurs conservatrices et nationales, qui rassemble 2/3 de l'électorat, mais moins les affaires, moins l'hostilité à l'Union européenne, parce que l'Hongrie reste, et ça, Viktor Orban lui-même l'a toujours dit, reste attaché à l'Union européenne.
Et je vais laisser la parole à mes éditorialistes et chroniqueurs qui ont sans doute des questions à vous poser. Mais les premiers pas, ce qui a été très frappant donc, dans la vie de la victoire de Peter Maguire, c'est qu'elle a été largement célébrée, notamment par le centre européen, je pense à Nathalie Loiseau, à Valérie Haye, grossièrement par le camp macroniste, alors que les premières interventions médiatiques de Peter Maguire ont été extrêmement tonitruantes. Il est quand même arrivé sur la chaîne publique de la télévision hongroise en expliquant, je vais caricaturer, qu'il allait fermer cette chaîne et mettre tout le monde dehors. Il allait rendre visite au président de la République de Hongrie en sortant, en expliquant que ce type était un abruti et qu'il allait le mettre dehors.
En l'identifiant sur Twitter.
La photo est tout à fait officielle, on les voit tous les deux côte à côte, dans une posture très officielle. Enfin, c'est... oui, c'est ça le nouvel allié du macronisme. En fait, finalement, tant qu'il est plus pro-européen que pro-russe, il peut tout se permettre. Finalement, c'est un petit peu ça le...
Oui, oui, disons que du fait que il a annoncé très clairement qu'il voulait normaliser les relations de la Hongrie avec l'Union européenne, qu'il n'allait pas s'opposer systématiquement au soutien à l'Ukraine et aux sanctions contre la Russie, il est apparu comme un moindre mal, voire même comme un petit peu mieux qu'un moindre mal. Concernant en effet ses prises de position directes, bah, comme il arrive dans la posture de celui qui doit démanteler un État autoritaire, un État FIDES, comme on disait à l'époque, il y avait un État RPR. Bon, là, c'est, utilisons peut-être ce parallèle pour comprendre la situation locale. Il était, j'ai envie de dire, dans son rôle et dans le rôle qui fait qu'il a reçu le soutien du centre européen. C'est-à-dire comme celui qui va, en effet, démanteler tout ça, des gens qui ne devraient pas être là, comme par exemple cette télévision publique qui, en effet, hein, sous Orban, est devenue très pro-gouvernementale.
Valentin Gore, si vous avez une question pour Maxime Rondiestino.
Oui, bien sûr. Bah, une question quand même sur la spécificité de ce pays très intéressant, la Hongrie, petit pays par la taille, mais grand pays par l'histoire. Vous l'avez dit, une prédominance de la droite qui est surprenante, même dans les pays de l'Est, hein, où quand même les valeurs traditionnelles sont plus respectées qu'ailleurs. On se souvient qu'il y a eu évidemment, c'était le pays le plus remuant du bloc de l'Est, hein, d'assez loin. C'est le premier pays qui a même ouvert une brèche avec la fameuse frontière avec l'Autriche, bien avant la chute du mur de Berlin. Donc, qu'est-ce qui explique ce caractère quand même extrêmement atypique et assez farouche et assez quand même passionnant à observer de ce peuple hongrois qui visiblement n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds ?
Et je pense que vous l'avez un petit peu esquissé, il y a une histoire qui rappelle que la nation hongroise, mais on pourrait faire des parallèles avec d'autres petites nations centre-européennes ou est-européennes, la nation hongroise est quelque chose de précieux parce que fragile. Il faut sans arrêt se battre pour exister dans un monde et voire même dans une Europe hostile. Et Viktor Orban a joué sur cette corde-là pendant longtemps. Il a incarné cette Hongrie menacée par l'impérialisme de l'Ouest. Et comme ce discours s'est traduit en politique publique qui ont eu des résultats, notamment en matière migratoire, eh bien, ce discours a infusé. Si bien qu'aujourd'hui, il est devenu compliqué en Hongrie de gagner des élections en expliquant que tout ce qui a été fait dans le passé, dans un passé récent, est mauvais. Donc ce discours national, qui se superpose à un arrière-fond historique toujours vivace, eh bien, aujourd'hui, il est assez hégémonique, si vous voulez. Vous avez des villes de gauche, Budapest, la Hongrie est une démocratie occidentale, donc vous avez ce clivage jeune, urbain, électorat plus âgé.
Des métropoles ouvertes sur le monde.
Province. Et voilà, vous avez ce clivage assez typique, mais avec quand même un patriotisme qui transcende un peu les courants et que vous retrouvez largement d'ailleurs aussi en Pologne. Simplement pour nuancer, la Pologne est beaucoup plus traditionnelle dans ses mœurs, parce que c'est vraiment un pays qui reste, lui, chrétien et pratiquant. La Hongrie, c'est quand même un petit peu différent là-dessus. Ça n'empêche pas qu'il y a un clivage très fort en Hongrie, quasiment 50-50, entre d'un côté des progressistes qui ressemblent à ce qu'on peut connaître en France, et des conservateurs qui, eux, pour le coup, assument ce discours national chrétien que Orban a voulu un petit peu installer en Hongrie, bien que la Hongrie ne soit pas une Pologne bis, hein, en termes de christianisme, de pratique, etc.
C'est un peu la question qui me vient à l'esprit, puisque là, on sait que les Hongrois sont le seul peuple européen avec les Finlandais à ne pas parler une langue européenne.
Indo-alienne.
Voilà, exactement. C'est une spécificité qu'ils ont dans le continent européen. Je ferai intervenir Étienne après, qui a vécu quelques mois à Budapest. Mais est-ce que c'est ces origines historiques qui peuvent expliquer l'espèce de...
C'est un point important. Il y a cette spécificité que reflète cette langue ouralienne, en effet, très difficile à apprendre. Très, très difficile à apprendre. Il y a cette idée aussi, vous savez, quand Orban a réformé la Constitution, il a tenu à rappeler les racines chrétiennes de la nation et à faire mention de Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, ça correspond donc à l'an 1000. Hein, c'est celui qui a réussi à établir une sorte de base chrétienne dans une vaste plaine est-européenne qui était traversée depuis des siècles par des invasions venues de très loin, des Huns, etc. Donc la Hongrie, c'est aussi dans son histoire, et Orban a voulu aussi un petit peu utiliser cette histoire, comme étant le rempart de la chrétienté, la frontière orientale du monde chrétien. Donc il y a un petit peu cette idée-là qui cultive une forme de fierté nationale et qui s'est greffée au XXe siècle Dans un discours, on les appelait les populistes à l'époque, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle le populisme aujourd'hui, mais les populistes, c'était ces Hongrois qui disaient attention aux valeurs de l'Ouest, aux valeurs matérialistes de l'Ouest, qui peuvent venir contaminer, en quelque sorte, la vitalité des communautés spirituelles et nationales de l'Europe centrale, qui ont lutté pendant toute leur existence pour survivre à ces tentatives d'invasion, justement. Donc je crois qu'il y a une corde nationale, il y a une corde sensible nationale qui traverse malgré tout les époques, parce qu'elle continue d'habiter quand même la mémoire.
Étienne Darjac, vous qui avez vécu quelques mois en Hongrie, à Budapest,
oui, alors, pour être précis. J'ai peur que ma fréquentation de la Hongrie se soit beaucoup limitée au mur du Zimplabar, qui est un bar que je recommande par ailleurs.
Que les initiés connaîtront.
Donc, je crains malheureusement que cet Erasmus ne m'ait pas apporté grand-chose sur le plan de la connaissance de la Hongrie. Non, ma question, c'est, on a bien compris en vous écoutant qu'il y a finalement peut-être plus de points communs que de divergences fondamentales entre Orban et Peter Maguire. Est-ce que, alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire, est-ce que finalement la victoire de Peter Maguire, c'est pas la planche de survie et la meilleure nouvelle possible pour l'orbanisme, enfin, si on peut appeler ça comme ça, mais pour pérenniser un peu, pour rentrer des signaux dans les mœurs, cette révolution nationale, révolution conservatrice dont vous parliez.
Bah, je l'ai quasiment écrit en ces termes dans une tribune qui a été publiée par le JDD dimanche dernier.
Vous n'avez évidemment pas lu, Étienne Darjac. Ça aurait voulu dire que vous avez préparé cette émission.
Ça, c'est une question de principe.
Je dis que l'orbanisme survivra à la défaite de Viktor Orban. Donc, c'est une défaite politique, mais pas une défaite idéologique. Son discours a infusé à tel point, comme je le disais, que Maguire a dû... l'opposition a dû se ranger derrière un candidat qui était en capacité de le reprendre, en quelque sorte.
Il y a un côté générationnel aussi, je suppose. Il y avait peut-être Maguire à partir peut-être d'une génération un peu... Il y a un renouvellement un petit peu, qui paraît peut-être
Il peut y avoir aussi un petit effet lassitude, une nouvelle génération qui arrive et qui veut tout simplement changer quelqu'un qui a toujours été là pour elle, qui donne l'impression que la Hongrie a toujours été dirigée par un seul homme. Il peut y avoir ces effets-là, mais... ça ne remplace pas, ça ne vient pas contester les deux grandes raisons que sont les difficultés économiques de la Hongrie et la volonté de mettre fin à certaines pratiques, certaines dérives kleptocratiques qui font que les Hongrois commençaient à se vivre comme étant les gens les moins bien dirigés d'Europe. La Roumanie est passée en termes de croissance économique, en termes de développement économique, devant la Hongrie. Donc là, vous voyez, ça commence aussi à toucher un petit peu cette fameuse corde sensible nationale dont on parlait.
La fierté hongroise. Parce que c'est vrai, on a la Pologne qui est passée sous domination, on va dire un peu plus au centre. Que ce qu'elle était précédemment, même si le centre polonais, il faut s'entendre sur...
Le centre polonais, c'est globalement reconquête, quoi.
Oui, sur la définition de ce que peut être le centre polonais. La Hongrie, donc, qui se débarrasse d'Orban pour Peter Maguire. Est-ce que on n'observait pas malgré tout comme une porosité de cette Europe de Visegrad, finalement, à l'influence occidentale, tout simplement? Alors que l'Occident, lui-même, est en train de revenir de manière globale à des politiques, à des camps politiques plus à droite que ce à quoi ils étaient habitués avant. Est-ce qu'il y a une espèce de renversement ou de vase communicant, tout simplement?
Oui, alors, déjà sur le groupe de Visegrad, vous l'avez évoqué, ce qu'on appelait le V4, parce que c'est un groupe diplomatique qui a été lancé en 1991 pour rassembler, coordonner l'action de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Pologne. Ce groupe fonctionnait très bien dans les années 2010 pour s'opposer aux politiques migratoires de Bruxelles. Invasion russe de l'Ukraine, opposition entre la Hongrie et la Pologne, groupe de Visegrad complètement en crise, et Maguire a annoncé qu'il voulait le relancer. Parce qu'en effet, avec Tusk, le premier ministre centriste, centre-droit polonais, il y a une véritable connivence, un caractère plus pro-européen, disons. Par contre, sur l'immigration, Donald Tusk dénonçait il y a quelques années, je cite, ouvrez les guillemets, l'humanitarisme total de Bruxelles. Et donc, Tusk, comme tout un ensemble de gouvernements ouest européens, y compris sociaux-démocrates quand on regarde le Danemark, s'urbanisent en quelque sorte, en tout cas sur la question migratoire. Vous avez en effet une Europe, et même une Union européenne, qui est désormais à changer sur cette thématique parce qu'il y a une pression des électeurs, tout simplement.
Ouais. On voit d'ailleurs au Parlement européen, Valentin Gore, les équilibres. À l'époque où le PPE se tournait davantage vers sa gauche pour trouver des accords et pour faire passer des motions ou des lois, maintenant, on se regarde davantage vers sa droite et on a vu notamment François-Xavier Bellamy travailler avec des eurodéputés de l'AFD pour faire passer une résolution. Il y en a quand même tout un équilibre qui est en train de changer entre Bruxelles et Strasbourg.
Non, bien sûr, il y a eu notamment sur les sujets migratoires et aussi pour contrer la gauche sur les sujets climatiques, vous avez raison. Moi, j'aurais quand même une question sur Viktor Orban, qui est quand même un animal politique, qui est très présent en Hongrie, même avant qu'il arrive au pouvoir, en fait, depuis la fin de la guerre du bloc de l'Est. Hein, il a commencé sa carrière très jeune. Quel est son avenir? Je le dis franchement, est-ce qu'il a une chance, par exemple, ou une malchance, en l'occurrence, de peut-être vraiment avoir un sale moment devant les tribunaux, voire de risquer la prison avec ses affaires de corruption? Est-ce que monsieur Magyar peut avoir la tentation peut-être de s'en débarrasser de cette façon? Quand vous voyez les choses sur son avenir à lui et l'avenir de son parti, le Fidesz?
Alors, Peter Magyar a annoncé qu'il allait mettre en place tout un ensemble de commissions d'enquête pour faire la lumière sur les dérives de l'État Fidesz, les dérives kleptocratiques, etc. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être inquiétées de ce fait-là. Est-ce qu'il ira jusqu'à attaquer Viktor Orban qui a perdu les élections et a simplement respecté le sort des élections, je ne sais pas. Moi, si je devais m'engager sur un terrain un peu plus sûr, c'est sur le terrain idéologique, c'est-à-dire que Viktor Orban, ça a été quand même pendant 10-15 ans l'un des grands théoriciens au fond de la vie des idées européennes, puisque c'était un chef de gouvernement qui conceptualisait sa vision du monde et qui a fait de Budapest la capitale d'un soft power national conservateur qui a irrigué l'ensemble du monde occidental jusqu'aux États-Unis.
Vous avez des intellectuels. Pour Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est un passage obligé. Passage à Budapest,
c'est obligatoire. Il a converti tout un ensemble d'eurosceptiques à l'idée qu'on pouvait changer l'Union européenne de l'intérieur. Ça, je crois que c'est vraiment ça. Et puis, il y a cette dimension très idéologique, ce retour du conservatisme qu'on a vu en France avec la Manif pour tous dans les années 2010. Et lui, il a vraiment articuler ce discours avec des références philosophiques qui fait que tout un ensemble de penseurs, notamment issus du monde anglo-américain, sont venus à Budapest. Je pense à Roger Scruton, le grand penseur britannique conservateur. Je pense aussi à Patrick Deneen, qui a publié un livre préfacé par Barack Obama d'ailleurs, qui s'appelait « Pourquoi le libéralisme a échoué ?». Et donc c'est le retour d'un conservatisme critique du libéralisme qui nous ramène à des combats intellectuels du 19e siècle, qui oppose l'individu, la communauté, les contre-pouvoirs, les traditions. Vous voyez, tout ce dialogue qu'on a eu, toute cette controverse intellectuelle qui a nourri le 19e siècle européen et que Orban a réhabilité. Donc, il peut avoir peut-être aussi un destin de, de dirigeant de think tank.
Ouais,
vous voyez,
théoricien,
Peut-être va-t-il, et je l'écrivais aussi dans cette tribune du GDD, consacrer en fin du temps au manifeste illibéral qu'il a essemé au gré de discours pendant une dizaine d'années.
Merci beaucoup, Max-Erwan Gastineau, géopolitologue, enseignant en relations internationales et notamment auteur de l'ère de l'affirmation, pardon, répondre au défi de la désoccidentalisation. Allez. C'est pour ça qu'on a voulu.
La première fois était très bien.
Le sous-titre, le sous-titre est quand même assez casse-gueule aux éditions du CERF. Merci d'être venu nous parler de Peter Maillard et de Viktor Orban. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous recevrons le rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles, Mère Descraffray. Avec lui, nous reviendrons sur le scandale du moment, c'est-à-dire l'affaire Lafarge, ou comment un ancien patron du CAC 40 a été reconnu coupable de financement du terrorisme, tout simplement, mais on va revenir là-dessus avec Mère Descraffray dans quelques instants. Restez avec nous, petit message de votre radio, court intermède musical, et nous revenons tout de suite.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles à l'antenne de Radio Courtoisie. Je suis Marc Hainaut et je suis toujours en plateau avec Valentin Gore et Étienne Darjac, que je ne présente plus. Bonsoir à nouveau messieurs. Et nous accueillons Meredek Raffray, rédacteur en chef monde de Valeurs Actuelles. Avec vous Meredek, nous allons revenir sur ce procès hors norme, sur cette affaire elle aussi hors norme, le procès Lafarge, du nom du cimentier leader mondial, un des leaders mondiaux sur cette branche. Et l'ex-PDG de Lafarge, Bruno Lafont, a été condamné à 6 ans de prison ferme avec incarcération immédiate, plus une amende colossale. Christian Hérault, autre ancien patron de Lafarge, 5 ans de prison ferme, plus également une amende, des peines allant d'environ 18
avec
mois.
Incarcération immédiate.
Avec incarcération immédiate lui aussi. Des peines allant d'environ 18 mois à 7 ans de prison selon les rôles des uns et des autres. Pour l'entreprise Lafarge, une amende pénale d'1 125 000 euros et environ 4,5 millions d'euros d'amende douanière. Je précise que la première amende pénale, c'est le maximum légal. Donc les juges ont été extrêmement sévères.
Et c'est la première fois, c'est une historique en France, c'est la première fois qu'une personne morale entreprise est condamnée pour contribution au financement du terrorisme. C'est vraiment une première historique pour la justice française.
Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on reproche tout simplement à Lafarge en fait, d'avoir financé le terrorisme et d'avoir financé l'action de l'État islamique. En fait, tout simplement.
Alors comme on a quand même on a une petite demi-heure pour en parler.
On a le temps de décliner. Ouais.
Ce que je vous propose, si vous voulez, c'est quand même de réexpliquer cette tentaculaire et très complexe affaire Lafarge en Syrie, pour les auditeurs, et d'abord pour vous dire bonsoir, et le plaisir que j'ai à retrouver au moins des deux forbans de la rédaction de Valeurs Actuelles ce soir au micro de Radio Courtoisie.
Plaisir partagé,
voilà. Ah bah oui, combien.
Et rappeler aussi aux auditeurs, puisqu'on peut faire un peu de pub pour nous, que j'avais publié une grande enquête synthèse en le 18 novembre, que vous pouvez retrouver sur le site internet de Valeurs Actuelles qui s'appelle Procès Lafarge, les otages de la géopolitique et des affaires. Je crois que pardonnez-moi, mais je m'autocite, je trouve que le titre résume en fait la complexité de l'affaire. Finalement, derrière ce procès se cache une affaire à tiroir qui implique les plus hautes autorités de l'État, la politique française dans les années 2010-2014, mais au-delà vis-à-vis de la problématique de la Syrie, on va y revenir. Elle implique aussi les relations entre les grandes entreprises françaises et nos services, la manière dont ces deux mondes peuvent cohabiter de manière opportune ou pas. Et elle implique aussi d'autres acteurs, et c'est là où ça devient très complexe. D'une part, ceux qui se sont portés partie civile au procès, des ONG très connues dans le monde politique pour, comment dirais-je, les scalps des grandes entreprises qu'ils ont à leur actif. Je parle de l'ONG notamment présidée par l'avocat Bourdon, dont le nom m'échappe à l'instant, mais Marc va m'aider à le retrouver.
Oui, je trouve ça dans quelques instants.
C'est une ONG qui se fait, qui a pour habitude en fait de porter en justice, plaider en justice contre les actions de grandes entreprises à son trophée.
L'ONG Transparency International.
Voilà.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
À son trophée, on peut nommer Total, Dassault, toute une bonne partie du CAC 40. Et à nouveau, on retrouve cette ONG qui s'est portée partie civile à ce procès. ONG qui, au passage, il faut le répéter, est financée par des gentils donateurs et en particulier par des gens qui s'appellent, par exemple, George Soros, qui sont bien connus
l'Open Society,
de vos propres services à vous, messieurs de Radio Courtoisie. Et ce sont George Soros, qui est un milliardaire connu pour sa philanthropie, mais une philanthropie engagée. Et en fait, quand on connaît un peu le dossier Soros, on s'aperçoit que Soros finance toutes les causes qui profitent d'une manière ou d'une autre à l'Amérique, au sens global du terme. Et ça, c'est important à le dire. Et puis,
qui affaiblit l'Europe.
Voilà. Ouais. Et puis, dernier pan de cette affaire assez tentaculaire, c'est une bataille de capitalistes, de grands capitalistes, pour le contrôle, en fait. Lafarge, c'était à l'époque le premier cimentier mondial. Une entreprise créée à l'aube du XXe siècle par tous ces grands patrons chrétiens avec une vraie fibre sociale qui ont bâti une entreprise telle des aventuriers du capitalisme moderne, mais humain, à visage humain, le capitalisme social, et qui ont bâti un empire mondial, et qui se retrouvent en 2012 ou 13, je ne sais plus exactement, mais au moment où sort l'affaire Lafarge dans les médias, en fait, au même moment, Lafarge fait l'objet d'une, dans un premier temps, d'une OPA amicale, c'est-à-dire d'un rachat, en fait, à parts égales par un autre géant du ciment qui s'appelle Holcim, qui est un groupe suisso-américano-suisse. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une, et on rentre peu à peu dans cette affaire. D'ailleurs, ce projet de fusion a été concocté à l'époque par le PDG de Lafarge, Bruno Lafont, et qui avait présenté et, comment dirais-je, motivé toutes ses équipes en disant ce sont deux entreprises qui vont se fusionner à parts égales. Ouais. Voilà. Et puis, 2 ans plus tard, on connaît la vérité. En réalité, Holcim va absorber Lafarge et au moment où éclate, comme par hasard aussi, dans les médias français, l'affaire Lafarge de Syrie.
Une concomitance assez opportune. Une concomitance
intéressante à noter. Et... comment démarre cette affaire, en fait, judiciaire? En 2010, alors attendez, il faut que je reprenne mes notes pour ne pas dire de bêtises, mais l'affaire démarre en 2016, après la publication d'un témoignage d'un des prévenus, sur lequel on passe, et un article au même moment dans le journal Le Monde au vitriol, qui insinue déjà que notre fleuron industriel français, en fait, ne fait pas des affaires propres en Syrie, mais finance le terrorisme.
La plus tant des faits allant de 2012 à 2014.
Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Fin 2011, début 2012, éclate la révolte en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad, le fils du père. Et c'est le début d'une guerre civile qui va être absolument sanglante et qui trouvera son point final l'année dernière, en 2024, avec la chute et la fuite de Bachar el-Assad en Russie. Entre-temps, il y a eu une guerre absolument effroyable entre 2012 et 2018 qui va faire au minimum, au bas mot, 500 000 morts et qui va absolument décimer totalement une grande partie de la Syrie. Cette guerre, au départ, elle démarre en fait avec la révolte d'une partie des campagnes sunnites contre le régime de Bachar el-Assad. Le régime alaouite qui est une toute petite minorité syrienne qui est les Alaouites, c'est un dérivé en fait du chiisme. Et donc dans ce monde musulman, ce sont les frères ennemis. Et en plus, ils sont minoritaires et ils tiennent le pouvoir. Et en fait, très vite apparaissent des gens qui soufflent sur les braises et qui alimentent cette révolte. Je parle des grandes puissances sunnites, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, tout le monde s'y met et tout le monde commence à livrer des armes et de l'argent, mais aussi apparaissent très vite les États-Unis et la France, car en Occident, au pays des droits de l'homme et de l'idéologie reine, en fait, tout le monde rêve déjà de la chute du dictateur sanguinaire Bachar el-Assad, parce que autant on ne dit rien contre les dictateurs du Moyen-Orient à qui on vend des armes, mais autant celui-ci, c'est un dictateur...
Qui avait été reçu en France quand même, Bachar el-Assad.
Alors, Marc, vous m'obligez à faire une digression.
Oui, je suis désolé, tant qu'à faire, rappelle toute l'affaire.
Une digression, c'est que, en fait... Le pouvoir français, notamment Nicolas Sarkozy, avait parié sur après le Chirac, il avait parié sur le rétablissement, enfin sur le retour en fait du fils d'Afel Assad, qui n'était pas normalement présupposé prendre le pouvoir.
Absolument.
Mais son frère aîné était mort dans un accident. Donc le père était sans héritier. Et donc, au décès du père, cet ophtalmologue londonien, marié avec une superbe princesse sunnite syrienne se retrouve à la tête de ce pouvoir. Mmh. Et à ce moment-là, Londres, Paris et Washington disent ce jeune type qui était complètement occidentalisé, on va le prendre sous notre coupe pour normaliser, occidentaliser, démocratiser la Syrie. Évidemment, ce rêve se heurte très vite à la réalité. Et à ce moment-là, c'est le début de la guerre civile en 2012. Alors Marc, vous m'avez coupé dans mon élan, du coup, je ne savais plus où j'en étais.
En tout cas, donc c'est tous les pays sunnites du Golfe arment et financent cette rébellion.
Et donc, opportunément, le pouvoir français en particulier, puisqu'on va rester en France, on est à l'époque sous François Hollande, au Quai d'Orsay officie l'inénarrable Laurent Fabius, et qui trouve là un moyen de mettre en avant le fait qu'il y ait une rébellion, une opposition, une vraie opposition démocratique qui naît face au pouvoir de Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, contre l'avis des experts, le pouvoir décide d'armer, de donner des armes à cette rébellion, à cette opposition armée, quitte, nous sommes en 2011-2012, et en fait, cette opposition armée, c'est un petit noyau de petits groupes éparses dont personne ne connaît très bien les affiliations, les origines, les penchants, l'idéologie.
On en tire à dire qu'il y a des démocrates, on va dire laïcs, il y a aussi des embryons islamistes qui se montent.
Tout le spectre de l'opposition. D'ailleurs, c'est le même sujet que le dossier iranien aujourd'hui. On a le même sujet. Et en fait, le problème, c'est que Paris est trop content de mettre en tête de gondole cette opposition en disant, voyez, il faut se battre aux côtés des rebelles, car nous avons une vraie opposition démocratique qui naît. C'était en fait un package marketing rapide. Et c'est dans cet environnement que se situe l'affaire Lafarge. Alors, Lafarge, c'est quoi? C'est une usine LCS qui a été bâtie dans le nord-ouest de la Syrie. En fait, c'est un dossier qui est... Lafarge a racheté en fait une franchise à un très puissant groupe égyptien de ciment et a décidé en fait de bâtir une vraie usine, comme ils savent le faire, dans cet endroit en fait désertique, avec l'idée d'alimenter en ciment pas seulement le nord de la Syrie, mais toute la région, c'est-à-dire le nord de la Turquie, enfin le sud-ouest de la Turquie, le nord de l'Irak, peut-être aussi jusqu'à la Jordanie. C'était donc 700 millions d'euros d'investissement, plusieurs milliers de salariés et leurs familles dans cet endroit, évidemment, où il n'y avait pas beaucoup d'industrie.
Il n'y avait pas d'eau, en tout cas c'était vraiment le désert.
Et Lafarge se maque pour ce dossier avec un entrepreneur local qui était le fils d'un ancien ministre de la Défense de Bachar el-Assad. Et parce que là-bas, pour faire des affaires, il faut être passé par le pouvoir. Et sur ces entremises, donc, le pays commence à être à feu et à sang. Et les patrons de l'usine, qui évidemment ne sont pas des spécialistes de géopolitique, vous imaginez bien, et encore moins de la cartographie de l'opposition entre guillemets naissante et encore moins des vrais rebelles qui se cachent derrière l'opposition, prennent évidemment conseil auprès des autorités françaises, du Quai d'Orsay, etc. Et Christian Hérault, par exemple, qui était à l'époque le directeur général adjoint en charge des opérations dans une vingtaine de pays, dont la Syrie, a des contacts réguliers avec notre ambassadeur sur place, Chevalier, que je connais personnellement pour l'avoir. Je vais vous raconter une petite anecdote. À la fin des années 90, il était le conseiller spécial de Bernard Kouchner, Kouchner était le patron de l'ONU au Kosovo. Et comme Kouchner, Chevalier est un médecin, j'ai perdu son prénom, pardonnez-moi. Et en fait, il a été nommé ambassadeur à Damas. En 2012, notre inénarrable président Sarkozy décide, sur les conseils de Bernard-Henri Lévy, de toute la gauche française, de fermer notre ambassade. Décision sympathique aux yeux des idéologues germano-pratins, mais qui nous coupe complètement de nos antennes sur place.
D'où la nécessité pour Lafarge de trouver d'autres...
Voilà, et donc notre ambassadeur est rapatrié à Paris et Lafarge continue à avoir des contacts avec lui pour lui dire qu'est-ce qu'on fait. Mais messieurs, il faut continuer, disent ces grands experts diplomates aux entrepreneurs, parce que ce n'est qu'une question de moi. Le diable Bachar el-Assad est sur le point de tomber. C'est une question de moi, et je peux vous citer une anecdote personnelle. À l'époque, j'avais eu l'occasion de rencontrer des grands patrons des services français dans le cadre d'un échange avec des journalistes parisiens. Et je revois encore le numéro 2 de la direction du renseignement militaire de l'époque, qui était un amiral, dont je tairai le nom. Et je lui ai dit, mais vous êtes amiral, qu'est-ce qui vous êtes vraiment sûr du... Oui, monsieur. On sait que le régime va tomber dans quelques mois. On sait. C'est une question de mois.
À 12 ans près, il s'était pas planté, quoi.
En décembre 2012, donc l'affaire Lafarge a déjà commencé. En décembre 2012, je cite cet extrait dans mon papier dans Valeurs Actuelles.
À lire.
À lire, bien sûr, et à acheter. En plus, c'est mieux parce que comme ça, on pourra prendre un café après la fin de l'émission.
Voir les moyens.
Voilà. En décembre 2012, Laurent Fabius est interrogé dans une émission Le Monde RTL et TV5 Monde, je crois. Et on lui dit, mais les Américains, en septembre dernier, 2012, ont classé Al-Nostra parmi les organisations terroristes, et vous, la France. Et alors, Laurent Fabius, que je ne vais pas citer in extenso, mais d'essence, dit quelque chose qui revient à cela. Il dit, oui, mais nous, en fait, pour nous, c'est compliqué parce que, en fait, il ne faut pas casser l'élan de la résistance. Et donc, les gens sur le terrain nous disent que ce ne serait pas un bon signal pour nous aider. Ça enverrait un signal négatif, notamment à l'international. Et donc, on hésite à le faire. Donc, vous voyez un peu l'esprit dans lequel ces dirigeants de l'époque...
Une grande confusion.
Sont dans une grande confusion intellectuelle, rationnelle et vis-à-vis en fait de ces gens qui ne connaissent pas bien. Et c'est là où j'en viens, messieurs les jurés, c'est que lors du procès qui s'est achevé en début d'année et dont on vient d'avoir le résultat, la justice en fait a reproché et a condamné sur la base du reproche suivant les huit accusés, au titre qu'ils ont délivré des bakchiches à des intermédiaires sur le terrain pour pouvoir continuer à faire fonctionner leur usine, en sachant que ces bakchiches allaient directement financer des gens liés aux terroristes, ou voire même des terroristes en direct. C'est-à-dire qu'ils reprochent aujourd'hui, en 2026, à ces entrepreneurs d'avoir, en 2012 et jusqu'en 2014, puisque la période incriminée part de 2012 à 2014, d'avoir sciemment financé des gens qui étaient connus comme des terroristes, alors même que les autorités françaises publiquement expliquaient qu'elles ne savaient pas exactement à qui elles avaient affaire.
Ceci dit, Laurent Fabius, il reconnaissait que le Front al-Nosra, c'était quand même un groupe islamiste, un groupe terroriste, mais lui, c'était plus stratégique, la question. Mais là où, effectivement, ça sert un petit peu les gens de Lafarge, c'est que est-ce que la justice a réussi à démontrer qu'en fait, ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils avaient conscience que les enveloppes qu'ils distribuaient alimentaient d'une manière ou d'une autre le terrorisme international, le terrorisme syrien? C'est ça, je pense, un des cœurs du...
Ce qui est certain, c'est que dans les mouvances, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire fonctionner une usine de 700 millions d'euros fabriquant du ciment pour toute une région, il faut de l'eau, il faut de la chaux, il faut des camions, il faut que ces camions approvisionnent l'usine et puissent ensuite livrer leurs produits. Et donc, il faut passer des checkpoints, il faut avoir l'autorisation des groupes rebelles qui se disputent à l'époque la région. Tout ça, c'est très mouvant.
Oui, parce qu'en plus, ça rapporte de l'argent et chaque groupe rebelle veut sa part du gâteau.
Et par exemple, comme a témoigné Patrice Franceschi, cet expert conseiller des Kurdes qui connaît la région par cœur, Patrice Franceschi était appelé par l'un des condamnés, Christian Hérault, qui lui demandait, toi qui connais bien les Kurdes, va les voir pour leur dire qu'ils sont un peu gourmands en bakchiche, parce que franchement, c'est hors de prix, leur bakchiche. Et donc, vous voyez, il n'y avait pas que des terroristes, il y avait des Kurdes, il y avait des non-Kurdes, il y avait des terroristes.
C'était un racket généralisé.
Et pour avoir été en Syrie en 2025, début 2025, eh bien, dans ces périodes de troubles, chacun, en fait, tire la couverture à soi pour essayer de survivre. Et voilà dans l'état d'esprit dans lequel, et comme le dit Patrice Franceschi, pour les autorités françaises, officiellement, la qualification de terrorisme a été appliquée à tous ces groupes à partir d'un événement majeur que tout le monde connaît, qui est l'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier, je crois, 2015. À partir de là, officiellement, les choses basculent. Mais la décision est prise par les patrons de Lafarge 6 mois plus tôt. à l'été 2024, compte tenu de l'évolution inquiétante de la situation et de l'apparition, de la montée en puissance réelle de ces groupes vraiment identifiés comme terroristes, d'arrêter les frais et de fermer l'usine et de rapatrier l'usine. Et alors, effectivement, Marc, vous avez raison. Il est assez évident et probable qu'une partie de cet argent a bénéficié à, si ce n'est directement, indirectement, mais directement ou directement à des groupes terroristes.
Pour l'État islamique, pour l'État islamique, le Front al-Nusra ou quiconque.
A fortiori, Marc, on peut évidemment reprocher une forme de naïveté, sans doute, peut-être. À ces décideurs. Et moi, je reste humble face à ce commentaire parce que 10 ans plus tard, il est facile de réécrire l'histoire. Mais il est clair aujourd'hui que la justice, mais pas seulement la justice, un certain nombre des amis, entre guillemets, de ces dirigeants de l'époque, vont même plus loin, et je pense qu'ils vont plus loin pour s'exonérer et pour couper définitivement les ponts avec ces gens qui ont été pris dans les mailles de la justice. Certains laissent dire, qu'en fait, c'était un petit calcul d'opportuniste qui aurait bénéficié à leur compte de résultat une fois que les choses se seraient clarifiées sur le terrain. C'était faire un petit pari de mercenaires, entre guillemets. Et ça, voyez-vous, c'est une... Connaissant personnellement plusieurs acteurs de ce dossier, je connais bien Christian Hérault pour l'avoir pratiqué pendant plusieurs années. Je connais très bien Patrice Franceschi. Je connais même très bien l'ancien directeur de la sécurité du groupe Lafarge, qui était lui en charge officieusement des relations avec les services. Cet ancien commando marine, je l'ai pratiqué dans les Balkans, pour ne pas trahir de secret.
Deuxième épisode.
Voilà. Les Balkans, toujours, on y revient.
Les souvenirs de guerre des Crafrères sont disponibles.
Les souvenirs de reportage.
Ouais. Non, en tout cas, donc Mérène des Crafrères, directeur en chef fond de Valeurs Actuelles, avec qui nous évoquons l'affaire Lafarge. Dans cette affaire, donc les dirigeants de Lafarge ont toujours eu le soutien de la France. On suppose que à quel point est-ce que la France les a soutenus et les a lâchés aussi?
C'est la question centrale, Marc. Mais pour terminer juste sur ce que je voulais souligner, c'est que je vois mal ces dirigeants d'entreprise, polytechniciens, enfin énarque, etc., ce que vous voulez, sciemment en fait décider de financer le terrorisme. Vous voulez, philosophiquement, il y a une chose qui cloche. En revanche, et c'est là où vous appuyez sur le point qui pose problème, c'est que au procès était absent le Quai d'Orsay, l'État bien sûr, et tous les services qui ont profité en fait de ses yeux et de ses oreilles, qui sont restés pendant 2 ans sur le terrain et qui avaient la liberté d'agir et de venir sur le terrain pour pouvoir cartographier en fait ces groupes et ensuite envoyer ces informations et ces renseignements à qui de droit pour alimenter en fait les objectifs de nos services qui traquaient nos Français djihadistes avec les moyens qui leur restaient, puisqu'on avait décidé de couper tous les ponts avec le pays.
Donc grillés, donc lâchés, quoi. Finalement, les patrons de Lafarge ont connu ce que vivent les agents de ces services-là, en quelque sorte.
Alors, vient s'ajouter la troisième couche de complexité à cette affaire. C'est la bataille pour le contrôle du groupe Lafarge.
Ouais. Vous avez raison, il y a le volet économique en plus, ouais.
Et c'est là où les choses se complexifient, c'est que quand Holcim met la main sur Lafarge, à ce moment-là, sort comme par hasard cette affaire de Lafarge en Syrie. Et le problème, c'est que, évidemment, pour la justice américaine, il n'est pas question non plus d'adouber les opérations d'un groupe qui devient américain ayant contribué au financement du terrorisme. Et c'est alors que, pour apurer les comptes, entre guillemets, les comptes judiciaires, le groupe fusionné, Holcim Lafarge, passe un accord avec la justice américaine, selon le mode qui s'appelle le plaider coupable, qui permet en fait à la justice de considérer que, en contrepartie d'une transaction financière, on apure, on solde les comptes et on remet les compteurs à zéro.
Ouais.
Et pour cela, il faut quand même donner quelques têtes sur les bios de la justice. Et ceux qui vont servir en fait de, comment dirais-je, de monnaie d'échange, finalement, ce sont les cadres dirigeants de Lafarge qui auraient dû être insérés dans les organigrammes du groupe fusionné à hauteur de l'apport du mariage, si vous voulez. Autrement dit, sur la copie initiale de la fusion entre le groupe français et le groupe américain, le groupe américain devait apporter un directeur adjoint, le groupe français un directeur adjoint, et puis la présidence devait devenir tournante. C'était donc une coprésidence, une codirection.
À égalité, quoi. Enfin,
voilà, à égalité. Et comme par hasard, tout d'un coup, on découvre que cette fusion d'égal devient en fait une fusion-absorption. Et pour se débarrasser en particulier de Bruno Lafont et de ses hommes, comme par hasard, surgit le sujet Lafarge. Et d'ailleurs, Bruno Lafont...
apporté par une association financée par Georges Soros de l'Open Society.
Alors, qui contribue. Moi, je suis pas en mesure de faire.
On sait pas si. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un alignement d'étoiles absolument génial pour la partie américaine de ce mariage.
Qui pose problème. Et alors, d'ailleurs, pour pouvoir démontrer cette collusion, on fait appel à un cabinet d'audit américain qui, lui, va dire quel est le chiffre qui a été donné en bakchiche. Comme par hasard, il est américain. Et c'est la base qui va servir à la justice américaine puis à la justice française pour déterminer les amendes.
Merci beaucoup, Meredek Raffray, pour ce brillant récit sur l'affaire Lafarge. Ah oui. Je suis sûr que nos auditeurs ont appris vraiment les détails de cette affaire beaucoup plus complexe que ce qu'elle laisse imaginer. Merci à Étienne Darjac et Valentin Gore d'avoir été avec moi. Merci à vous, surtout, chers auditeurs. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission et retrouvez demain le Récent Courtois de Boulevard Voltaire animé par Marc Baudrier. À très bientôt.
Ça suffit maintenant.